La revue de presse, Claude Ascolovitch, et vous nous parlez, Claude, de photos.
Deux photos, mon cher Ali, qui me signifient que mon temps est passé, car elles sont en noir et blanc, stigmates du passé dans nos magazines. La première montre une Vespasienne, César et Pipi des vieilles républiques, j'en ai vu. L'autre, une Sanisette de la marque Decaux, qui prirent le relais dans les années 80, j'avais dans les 20 ans. Et donc, par ce noir et blanc, Week-end, magazine des Échos, renvoie ma jeunesse à la préhistoire, mais en même temps, j'admets. Car Week-end, dont la cover est subtile, Game of Thrones, vous pigez, annonce une révolution, celle des toilettes. Oh, pas simplement dans la rue, où les sanisettes font peau neuve, mais surtout chez nous, car l'intimité depuis le Covid est la nouvelle frontière, et cette intimité, les gars, doit devenir sublime. Ça, c'est le slogan d'une start-up nommée Tron, sans circonflexe, montée par un HEC, deux architectes, un ingénieur, et parrainée par Xavier Niel, qui, pour des grands restos, de belles boîtes, des particuliers qui ont des sous, conçoit des toilettes waouh, douillettes, sophistiquées, colorées, calipiges asymétriques suspendues, cuvettes en céramique vernis ou laquée, lunettes en frêne, et bientôt sera supprimé l'inesthétique balai à chiottes, car Tron pousse à sa recherche et développement sur l'émaillage des cuvettes et la performance de la chasse d'eau. Et d'autres boîtes planchent sur la science des déjections. Je lis qu'on détruit et détruira les germes par les ultraviolets, des céramiques traitées, des ions d'argent incrustés dans les parois du trône. Et je lis qu'au Japon, la firme Toto, icône du WC lavant et du jet d'eau intime, concocte des toilettes wellness dotées de capteurs capables d'analyser ce que nous déposons au fond de la cuvette et de nous signaler ensuite, via une appli dédiée, nos déséquilibres alimentaires, voire nos malheurs de côlon et de reins. J'en vis en couleur mes descendants. Elle contraste cette hygiène glamour avec le sordide poison qui semble le quotidien de familles de gens du voyage que vous lirez sur les sites de Street Press et dans l'Humanité, gens qui vivent sur une aire d'accueil à LM Ronchin dans le Nord, à l'ombre d'une usine de béton et d'une concasserie de gravats. Dans Sud-Ouest, du côté de l'espoir, regardez une jeune étrangère qui, avec du riz, veut nettoyer nos eaux. Alba Rodriguez Otero, madrilène, qui a travaillé avec l'Université de Copenhague, qui, sur le traitement des eaux, est la meilleure. Dans un labo de la fac de Pau, extrait de l'enveloppe du riz, du silice, 300 grammes pour 1 kilo, et le silice, mieux que le charbon, filtre les micropolluants qui sont devenus son Graal. Lisez, cette étudiante est waouh.
On parle aussi d'une écrivaine.
Qui n'aimait pas sa ville de naissance en Haute-Loire et donc facilement est partie, Emilienne Malfatto, que le monde rencontre, aventurière, trentenaire, passée par la Colombie, l'Irak, le Kurdistan, prix Albert Londres, prix Goncourt du premier roman. Son dernier livre évoque les victimes de la dictature argentine. Elle pense désormais à un podcast sur des latinos émigrés clandestinement aux États-Unis. Elle photographie aussi car elle raconte des histoires par la lumière et en comparaison d'elle, on se sent gris, tout petit dans le monde qui lui appartient. Cette femme qui donne de la lumière, de la voix aux exclus. Tout près d'elle, lisez dans La Croix, l'hebdo, Nastassia Martin, anthropologue littéraire dont le Kamtchatka au bout de la Russie est la terre d'éveil et où, par la rencontre avec un ours, elle a su qu'elle croyait aux animaux et qui nous livre la vision du monde d'un peuple de là-bas, les Évennes, où il lisait. Cette Française est dotée d'un prénom russe car son père, qui est mort quand elle avait 15 ans, croyait au communisme à l'Est. Elle dit qu'au Kamtchatka, elle est une Mietka, celle qui vit entre les mondes, mais elle est bien aussi à nous dans la beauté de sa langue. Et c'est une journaliste trop tôt disparue, Fanny Chirou, qui avait dit à ses amis de La Croix l'Hebdo d'aller voir cette femme incroyable. Ainsi nous nous prolongeons. Sur le site du Monde encore, lisez une réflexion splendide de l'écrivain Jonathan Littell sur ce que pourrait être la littérature, une bibliothèque authentiquement ukrainienne. Il plaide pour que Bulgakov, qui était de Kiev mais écrivait en russe et était méchant envers l'Ukraine et sa langue, soit inclus dans ce patrimoine, car il est à vous, dit-il à ses amis ukrainiens. Il est à vous et peu importe qu'il ait été un salaud d'impérialiste. En France aussi, nous avons des salauds dans notre littérature, des antisémites comme Céline. Personne ne dira que ce ne sont pas des écrivains français.
On parle enfin des grands magasins.
Que revisite pour nous, au musée des arts décoratifs, le Figaro du jour et Télérama, précieux guide d'une expo consacrée à ces temples de la consommation qui poussèrent dans nos villes dans l'euphorie du 19e siècle, inventée par d'entreprenants personnages dont s'amuse le Figaro, homme ventru, dame patronne, patron paternaliste de les employés, organisés en hiérarchie, étaient nourris, logés, blanchis, et le concierge veillait à ce que les demoiselles du bon marché soient rentrées chez elles à 23h en semaine, à minuit et demi, le dimanche et jour de fête. Le Figaro encore nous raconte comment ces années optimistes de l'âge industriel furent magnifiées au quotidien par la peinture, la photographie, des films, des enseignes, et cela donne ce printemps au musée des Beaux-Arts de Caen une exposition, le spectacle de la marchandise, art et commerce 1860-1914, où vous croiserez un marché de Marseille vu par Raoul Dufy, celui de la rue Mouffetard vu par le pointilliste Maximilien Luce, et une amatrice de sol vue par Steinlein. C'est sublime. Merci messieurs. Dans les DNA et l'Alsace, on nous invite au musée Unterlinden de Colmar à voir un Dürer, le triptyque d'une crucifixion oubliée retrouvée en Picardie. Ce tableau et d'autres chinés littéralement analysés, sauvés par des chercheurs pour une expo sur la peinture rhénane des 15e et 16e siècles intitulée « Couleur, gloire et beauté ». Ça vaut Game of Thrones. Enfin, dans Marianne, qui se plonge dans l'histoire des scandales et des blasphèmes, je lis la réponse que fit le poète Baudelaire au peintre Manet, dont la bien-pensance d'alors avait mis à mal le tableau d'Olympia, un nu trop érotique. Il cherchait chez son copain poète un peu de réconfort, mais Baudelaire ne fut guère tendre. « Il faut donc que je vous parle encore de vous, que je m'applique à démontrer ce que vous valez. C'est vraiment bête. Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et Wagner? On s'est bien moqué d'eux. Pourtant, ils n'en sont pas morts. » À relire. C'était gentil.
Oh oui.
Merci Claude Askolovitch.